Gloire à Dieu. Nous allons parler d'un sujet très important pour la fin des temps. Et souvent, quand on parle de la fin des temps, on parle beaucoup plus des signes, les catastrophes naturelles, les guerres, le nouvel ordre mondial. Et on parle moins souvent de ce qu'on va partager là. Nous lisons donc dans Luc 21, 8 à 18, le passage que nous avons pris pour habitude de lire lorsque nous parlons de la fin des temps, Luc 21, 8 à 18.
Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas si tôt la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes.
Amen. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Nous voulons parler de la persécution et de l'humiliation qui est collée à la persécution. Et nous lisons donc au verset 12, « Mais avant tout cela, on mettra les mains sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. » Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Le Seigneur, dans d'autres passages, il dit, « Je vous ai averti afin que vous ne soyez pas surpris quand ces choses arriveront. » Donc, même dans le monde, on dit, « Un homme averti en vaut deux. » Donc, on nous avertit afin que nous puissions négocier les choses pour gagner, pour vaincre. Et comme on est déjà au courant, on saura comment aussi se comporter. Étant conscient que nous sommes à la fin de temps, donc j'ai eu à cœur de partager à propos de la persécution et de l'humiliation qui est liée à cela, de sorte que nous nous préparions sérieusement, donc qu'on ne comprenne pas à la légère la suite des temps. On sera persécuté. C'est une réalité. D'ailleurs, c'est ça qui marquera aussi le fait que nous serions donc la veille de l'enlèvement, ça sera la persécution. Et dans Matthieu 24, le Seigneur dit les mêmes choses que nous venons de lire. Nous allons lire quand même ça aussi, Matthieu 24, 3 à 12. Donc c'est important de lire et de voir, d'écouter l'avertissement du Seigneur.
Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira.
Verset 13.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Seigneur nous annonce qu'à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des moments difficiles où nous serons sévèrement persécutés au point que certains mourront. Il faut que nous soyons avertis parce que certains, quand ces malheurs arriveront, ils renieront le Seigneur et diront « Mais il est où pour nous protéger ? Il est où pour manifester sa puissance et frapper nos ennemis ? Il est où ?» Mais il faut comprendre, bien-aimé, nous ne faisons qu'imiter quelqu'un qui a été lui-même persécuté. Il dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Il suffit que ceux qui arrivent aux disciples ressemblent au maître. C'est très bien. Et souvenons-nous que le Seigneur a fini sa vie physique sur terre à la croix, à cause de la persécution. Maintenant, il nous prévient que à la fin des temps, cette persécution sera généralisée, comme celle qu'avaient vécu nos prédécesseurs dans les Actes des apôtres. Ça sera généralisé. Donc, à nous de nous préparer aussi à cela. Comprendre que, à un moment donné, nous allons étouffer ce monde. Notre présence sera un étouffement pour ce monde. On a vu un pasteur qui a fait un livre en parlant du Covid. Il a été reçu à la télé pour parler de son livre. Mais les premières questions, les questions sur lesquelles les gens se sont attardés pour lui poser, ça n'a pas consisté dans le Covid-19. Ça parlait plutôt de l'homosexualité, euthanasie, et tout ce que la Bible interdit. Donc ces gens-là voulaient attaquer cet homme en disant « Mais voilà, votre doctrine, elle est contraire à ce que tous les humains pensent. » Comprenons bien aimé que ça sera ça qui va arriver bientôt. Qu'à un moment donné, nous serons les seuls, ceux qui suivent Jésus, à nous appuyer sur la Bible et sur la vérité de Dieu qui se manifeste dans la création dès le commencement. On a vu pendant le problème de mariage pour tous, on n'a jamais vu les musulmans marcher ou bien protester. À un moment donné, il n'y aura que les disciples de Jésus qui diront « c'est faux, ce n'est pas bon le mariage homosexuel, c'est faux, ce n'est pas bon l'euthanasie ». À un moment donné, on sera seul à dire « l'œcuménisme, ce n'est pas biblique, ce n'est pas bon ». Et à cause de ça, nous serons persécutés. Nous serons persécutés, il est écrit au verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, le mal va augmenter en puissance. Bien-aimés, vous ne voyez pas comment partout aujourd'hui les homosexuels et transgenres sont élevés dans des postes de commandement. Ça va même toucher les États-Unis aujourd'hui. Donc, on sera le seul à dire non, comme ce pâtissier américain qui avait refusé de faire un gâteau de mariage pour un mariage homosexuel. On lui a porté plainte. Il a le droit de refuser. C'est sa vie, c'est sa pâtisserie. Mais on lui a porté plainte. Heureusement qu'il a gagné le procès. Lisons Ésaïe 5:20. Ésaïe 5:20. Nous serons persécutés pour la simple raison que notre attitude sera contraire à celle de toute l'humanité. Donc il faut s'y attendre beaucoup plus encore dans la fin des temps et dans tous les pays. Ésaïe 5:20.
Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal.
Voilà. Donc, nous vivons un temps où de plus en plus le mal est appelé bien. Maintenant, la question, le problème, ça va être, vous les chrétiens, comment vous appelez le mal? Nous, on va dire, on l'appelle mal. Puisque nous voulons être fidèles à la vérité, 1 Timothée 3:15 nous dit que l'Église est la colonne de la vérité. Et ça va nous créer des problèmes. Jésus nous prévient que même au milieu de nous, il y a des gens dans la peur de la persécution, dans la peur de manquer ceci ou cela, trahiront ceux qui voudront maintenir la vérité. Des gens qui se disent chrétiens, mais qui vont finalement avoir le même langage que les non-chrétiens et ils vont taxer ceux qui se maintiennent en Jésus, dans la vérité, d'extrémistes et d'intolérants. Dieu ne peut pas s'adapter aux hommes. C'est aux hommes de suivre Dieu. Dieu a dit à Ézéchiel, « Je mets en toi un front en diamant. » Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de te suivre. Ce n'est pas à nous de suivre la tendance humaine, c'est aux humains de se plier à la volonté du Créateur. Voilà, bien-aimé, quand on te pose la question pourquoi l'homosexualité, c'est pas bon, bien-aimé, il suffit pas de dire eh ben, c'est grâce à l'hétérosexualité que nous sommes nés et on est beaucoup sur la terre. Non, il faut dire clairement que le Créateur ne veut pas. C'est le Créateur qui est le chef, c'est lui qui a tout fait, il ne veut pas de ça. Dieu ne veut pas. Il faut avoir le courage de le dire. Même si on sera traité de fou, mais c'est ça la vérité, c'est ça qui est écrit dans la parole, que c'est une abomination. Et ça va nous créer des problèmes. Le Seigneur veut qu'on soit prêt à cela. Il ne faut pas voir le christianisme comme les gens de l'évangile de prospérité, comme quelque chose qui est une construction terrestre et censée nous donner le succès sur la terre. C'est faux, c'est pas biblique. Du début à la fin, Jésus a été persécuté. Du début à la fin. Même depuis sa naissance, Hérode a voulu le tuer. Du début à la fin, les forces des ténèbres, les gens du mal ne voudront pas de l'évangile. Et donc, il y aura une grande persécution à la fin des temps. Il faut qu'on s'y prépare. Il faut qu'on ait une attitude de voyageur. Il faut qu'on ait une attitude de gens célestes. Il faut qu'on comprenne qu'on est de passage, qu'on ne se laisse pas appesantir par les choses de la terre. Parce que c'est ça qui fera que face à cet amour des choses de la terre et la vérité, lorsqu'il y aura la menace, tu choisis Jésus, tu perds tout, beaucoup tellement attachés aux choses de la terre, vont mettre de l'eau dans leur vin, comme on dit, et ils vont se compromettre. Et maintenant, ceux qui refuseront de se compromettre, ben, ils sont persécutés. On va les faire souffrir, jusqu'à les faire mourir, pour certains. Mais Dieu nous dit, ne soyez pas surpris, je suis avec vous malgré tout, parce qu'il dit dans sa parole que même aucun cheveu de votre tête ne tombera. Ça veut dire quoi? Que même si vous mourrez, tout est sous contrôle de Dieu. Ne soyez pas surpris comme si c'était une défaite. Non, même un cheveu de votre tête, chaque cheveu de votre tête est en sécurité. Et donc, quand il y a mort, ce n'est pas la défaite, c'est juste la volonté de Dieu. Il faut comprendre ça, bien-aimé. Il faut qu'on soit prêt. Il ne faut pas qu'on voit les choses comme une défaite. Nous lisons encore Jean 18, 19 à 23. Comprenons que notre Seigneur est passé par là. Pourquoi je rajoute l'humiliation? Parce que quand on te persécute, ça te donne une sensation de défaite, donc de honte.
ça te donne une sensation de faiblesse, donc de honte, parce que tu te dis, mais finalement, moi, je suis serviteur du Dieu vivant, mais je me retrouve inférieur à des gens qui sont serviteurs de la chair et du diable. Donc, ça crée une honte, et on aurait tendance à réagir par orgueil. C'est là le sujet de notre prédication. Ne tombons pas dans cela. Restons tel qu'on va lire là, comme le Seigneur est resté. Dans la persécution, il y a aussi l'humiliation. Maintenant, quelle réponse à donner ? Vous savez, quand on a giflé Paul, on ne va pas lire ce texte. Quand on a giflé Paul, Paul a injurié la personne qu'il avait giflé. Il y a des murailles blanchies. Après, il s'est ressaisi. Donc, Dieu ne veut pas qu'on réagisse comme ça. Lisons Jean 18, 19 à 23.
Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit : J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que je leur ai dit. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donnait un soufflet à Jésus en disant : Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ? Jésus lui dit : Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?
Voilà, pourquoi me frappes-tu ? Bien-aimé, quelle réponse en douceur ! Pour quelqu'un qui pouvait tuer instantanément celui qui l'a giflé. Vous savez, quand on est venu arrêter Jésus, on a dit c'est toi, il a dit c'est moi. Quand il a dit c'est moi, il y a eu une puissance qui a fait tomber tous les soldats. Donc Jésus pouvait tuer instantanément celui qui l'a giflé. Vous savez, la gifle, c'est beaucoup plus honteux que les coups. Que 5 personnes nous passent à tabac, c'est moins honteux que quelqu'un qui vient qui te gifle devant tout le monde. Ça, c'est rabaissant. C'est humiliant. Mais c'est là où se trouve notre victoire. Répondre à cela par la paix et l'amour et la simplicité. C'est là que nous vaincrons les forces des ténèbres. Donc la persécution, ça crée une sensation de révolte. Ça pousse à retrouver nos vieux instincts, de nous battre, de lutter avec par la chair, de répondre au mal par le mal. C'est là que se trouve l'erreur. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut faire comme Jésus. Voilà le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, se fait gifler comme un enfant devant tout le monde. Il dit au monsieur, mais si j'ai dit quelque chose de mal, dis-le-moi, tu me gifles comme ça ? Dans la douceur, bien aimé, ça fait partie des versets qui sont les plus choquants pour moi. À chaque fois que je lis ce verset, il y a quelque chose qui bouge en moi, en colère, je suis obligé de me calmer. Par la grâce de Dieu, je me dis, quelle humiliation ! Mais écoutons la réponse du Seigneur. Vous savez, c'est pourquoi Jésus a vaincu la mort. En lui, il n'y avait rien. Parce que même à ce niveau-là, il répond en douceur. Donc la mort ne pouvait pas le retenir. Parce qu'en lui, il n'y avait rien de mal. La persécution, bien aimé, c'est quelque chose de normal. Mais ça sera encore plus fort dans les temps à venir. Nous devons nous préparer. Lisons Matthieu 10, 16 à 42. Lisons Matthieu 16 à 42. C'est un long texte. Mais je me suis dit, je préfère qu'on lise un long texte où Jésus nous parle plutôt que moi je parle beaucoup. C'est un long texte que si nous devions faire une étude biblique là-dessus, ça doit nous prendre 3 séances parce que c'est vraiment profond et complet. Donc Jésus envoie ses disciples. Et il explique tout ce qui va se passer. Il explique tout. Et aujourd'hui, nous sommes comme des envoyés, parce que si bien aimé après notre salut, nous n'avions pas de rôle à jouer sur terre, le Seigneur nous aurait enlevé s'il nous a laissés sur terre. Nous sommes tous des envoyés. Et écoutons ce que le Seigneur nous dit à nous tous comme étant des envoyés. Là, il le dit même pas forcément dans le contexte de la fin de temps, mais il faut comprendre que dans la fin de temps, ce que nous lisons sera vraiment présent. Lisons Matthieu 10, 16 à 42.
Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense.
Amen. Bien-aimé, c'est un long texte très fort sur notre présence sur la terre, sur le fait que nous serions persécutés à cause de notre travail, à cause de notre présence sur terre. Et on pourrait même se poser la question, si on n'est pas encore persécuté, peut-être qu'on ne travaille pas.
Donc on peut peut-être se poser cette question-là, parce que c'est la persécution qui accompagne les gens qui travaillent, qui font les choses de Dieu. Voilà. Et si nous ne sommes pas persécutés, n'y a-t-il pas un problème aussi dans notre vie? Ça, c'est autre chose. Et ça commence par le verset 16 qui dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Le passage, rien que le verset 16 de ce passage est lourd. Nous sommes comme des brebis au milieu de loups. Bien-aimés, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? À quoi on peut s'attendre lorsque nous sommes comme des brebis au milieu de loups, mais que le loup cherche à nous manger? C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, ils nous disent, mais pourquoi vous êtes étonnés des épreuves qui arrivent, comme si c'était quelque chose d'étrange? C'est pas étrange. Le Seigneur l'a dit et redit. Vous savez, quand vous lisez même Jean 15, il le dit encore, vous serez haïs de tous. Vous savez, c'est étonnant, parfois, quand on perçoit un thème, on reçoit un thème, de se rendre compte qu'il est plein déjà dans les évangiles. C'est pas nouveau. Il n'y a que ça. Peut-être qu'on ne touche pas suffisamment cela. Et aujourd'hui, je veux pas qu'on soit dans l'illusion par rapport à la suite des temps. Il y aura de la persécution à cause de la vérité. Même dans une même maison, il y a des gens qui vont persécuter d'autres parce qu'ils estimeraient que ils sont trop extrémistes. C'est une réalité. Nous devons nous y préparer. Mais comment? Dans l'humiliation. Et bien sûr, avec foi. Ce passage, il est long. Je pense que normalement, on devrait vraiment l'étudier que ce passage pendant 3 séances. Mais nous n'avons pas le temps. Ma prière, c'est que chacun le relise à nouveau. Donc, Matthieu 10, 16 à 42. Relire ça, comprendre qu'est-ce qui va arriver aux chrétiens. Qui est le chrétien aussi? C'est quelqu'un qui va embêter les autres par la vérité, par son amour, par ses positions, par sa prédication. Et à cause de ça, il sera persécuté. Bien-aimés, nous serons persécutés par, premièrement, qui? Donc, là, nous avons déjà présenté. Hein, en première partie, nous avons présenté ce que dit le Seigneur par rapport à la persécution. Nous avons donné son propre cas à lui qui est giflé. Mais en deuxième partie, nous voulons détailler les persécuteurs. Premièrement, il y a les mauvais esprits. Nos vrais ennemis, c'est les mauvais esprits. C'est eux nos premiers persécuteurs. Le chrétien est en guerre contre les mauvais esprits. Qu'il le veuille ou pas, le simple fait de devenir chrétien est une gêne parce que tu as pour les mauvais esprits, parce que en toi habite le Saint-Esprit. Le jour où tu deviens chrétien, tu abrites le Saint-Esprit qui gêne les mauvais esprits. Tu abrites la foi et la vérité qui gênent les mauvais esprits. Du coup, qu'est-ce qu'eux, ils vont faire? Ils vont chercher à détruire ta foi. Et en passant par ta destruction personnelle, c'est-à-dire en t'attaquant physiquement et spirituellement, ils veulent te déstabiliser afin que tu renies ta foi, que tu changes de maître, que tu tombes dans l'apostasie et que tu ne sois plus dangereux pour eux. Voilà d'où vient la persécution. Les mauvais esprits. C'est écrit dans Éphésiens 6, on va lire ça, Éphésiens 6, 10 à 20, que nous connaissons la plupart d'entre nous. Nous avons à combattre les mauvais esprits. Mais ce n'est pas nouveau puisque notre maître, comme il a dit dans ce long passage, hein, parce que ce long passage regroupe tout qu'on vient de lire de Matthieu 10. Dans ce long passage, Jésus dit il suffit que le disciple soit comme son maître. Puisqu'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Donc, Jésus a été persécuté par les forces des ténèbres, c'est écrit dans Colossiens 2, 14 à 15. Il a lutté contre eux à la croix.
Et donc, nous passerons par le même chemin. Lisons Éphésiens 6, 10 à 20.
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler.
Amen. Le frère Paul nous dit que le vrai combat que nous menons sur terre, la vraie persécution, elle vient des mauvais esprits qui sont très organisés en domination, en principauté, en esprit méchant dans les lieux célestes. Donc, ils sont très organisés et le seul moyen de les combattre, c'est les armes qui nous sont exposées là. La vérité comme ceinture, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, hein, c'est le sang de Jésus qui est notre justice, et aussi une vie de pureté qui est aussi qui contribue à cette justice-là. Il y a la prière, l'âme lourde, au point que Paul dit, mais priez pour moi pour que je prêche correctement, parce que bien-aimé, ne vous en faites pas. Parler de la part de Dieu, ce n'est pas une question de connaissance. Il y a un combat que tu mènes quand tu parles de la part de Dieu. Il faut que l'Esprit Saint agisse, c'est pourquoi on doit prier pour ceux qui parlent de la part de Dieu. Parce qu'il y a une guerre, ils sont comme en guerre pendant qu'ils parlent. Il dit l'épée de la parole. Bien-aimé, il y a certains problèmes qu'on a dans nos familles, au travail, à gauche, à droite. Ça doit être réglé en chassant les démons, en donnant des ordres aux démons. Il y a une sœur qui me disait qu'elle avait fait des démarches toute la matinée pour des documents. Pas de résultat. La dame qui l'avait accueillie l'avait envoyé faire d'autres démarches à gauche, à droite. Et là-bas aussi, c'était difficile. Finalement, le Saint-Esprit lui dit, mais pourquoi tu n'attaques pas les esprits qui sont dans cette dame-là? Et donc l'après-midi, parce que quand elle est partie chez elle, l'après-midi, elle est repartie encore. Et juste avant d'entrer dans le bureau, donc c'est là que le Saint-Esprit lui parle, et donc elle dit aux esprits qui animaient cette dame-là, vous arrêtez de m'embêter, vous vous en allez d'ici. À l'extérieur. Et dès qu'elle entre dans le bureau, la dame dit, donnez-moi votre dossier, tout est bon, tout est complet. C'est nos persécuteurs. Mais face à de tels persécuteurs, là, l'épée de la parole doit agir. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Comment vous expliquez Marc 16, 17? Dans Marc 16, 17, c'est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On commence par quoi? En mon nom, ils chasseront les démons. Pourquoi c'est le premier miracle? Parce que c'est ce miracle-là qui nous permet après d'agir. Parce que si les démons continuent à nous embêter à gauche, à droite, partout où nous sommes, nous ne pouvons pas agir comme il faut. C'est pourquoi le Seigneur nous donne autorité sur eux, afin que la première porte d'action soit ouverte. C'est eux, nos premiers persécuteurs, nos premiers opposants. Nous devons savoir prendre autorité. Quand nous les voyons sur notre route, on prend autorité sur eux. Je ne dis pas qu'on puisse crier aux démons à gauche, à droite, non. Le Seigneur, le Saint-Esprit, est là pour nous donner le discernement et on prend autorité. Il y a des choses pour lesquelles on intercède, on prie Dieu. Il y a des choses pour lesquelles il nous pousse à prendre autorité et à chasser les démons. En rappelant la parole, l'épée de l'esprit, en priant parfois, en louant Dieu, nous avons les armes. Donc, pour chaque persécution, il y a une réponse. Il y a la réponse pour chaque adversaire dans la persécution, il y a des réponses. Par rapport aux esprits, Paul nous donne toutes les réponses. Dans Apocalypse 12, 11, nous avons encore une réponse. Ils ont vaincu à cause de leur parole et du sang de l'agneau. Donc, on utilise la parole. On utilise la parole. Et on rappelle l'œuvre accomplie par Jésus à la croix qui nous donne une totale victoire par le sang de l'agneau. Nous devons être prêts à utiliser ça dans les persécutions à venir. N'oublions pas. Deuxième source de persécution, c'est les humains. Tout simplement, comme on l'a dit dans Isaïe 5, 20, ils vont commencer à appeler le mal bien et le bien mal. Et comme nous, on n'aura pas cette position-là, ça va les mettre en colère. C'est les humains, tout simplement aussi, parce que c'est les véhicules des démons. Les démons peuvent agir directement, mais en général, ils agissent aussi en se servant des humains. Du coup, les humains font partie du deuxième groupe de persécution. C'est les humains aussi par jalousie. Le chrétien est béni par Dieu. Le chrétien respire la joie et ça peut créer la jalousie. Et parfois, la jalousie entre chrétiens, c'est ça qui est plus grave encore. C'est-à-dire quelqu'un qui est de Dieu aussi, mais malheureusement, qui est encore attaché au succès, attaché aux jours de la terre, il peut tomber dans la jalousie et être un instrument contre un enfant de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit « Celui qui est son frère est un meurtrier ». Mais comment il va tuer par la haine? Parce qu'un esprit démoniaque se servira de cette haine pour faire du mal à l'autre frère. On sera persécuté par les humains, par la jalousie, à cause de la jalousie. Donc nous devons être attentifs à tout ça. Et la réponse, nous la connaissons. Jésus a répondu en douceur. La réponse à tout cela, c'est le fruit de l'esprit. Soyez vainqueurs du mal par le bien. Dans Romains 12, parce que bien aimé, si on doit lire tous les textes, ça va être long. Mais nous savons que pour répondre aux humains dans leur méchanceté, le Seigneur nous donne l'amour, nous donne la prière, nous donne aussi la prise d'autorité en fonction des cas sur les esprits qui animent ces hommes-là. Mais en tout cas, la réponse reste l'amour et la prière. L'amour et la prière. L'amour avec toutes ses nuances. La douceur, la bienfaisance, toutes ces nuances. Quand tu vas faire du bien à quelqu'un qui te fait du mal tous les jours, ça fait partie de la victoire sur ces personnes-là. Je reviens sur l'humiliation. La persécution vient avec l'humiliation. Et l'humiliation a tendance à créer l'orgueil, la réaction charnelle. C'est là le piège. Quand on réagit mal, c'est là qu'on ouvre la porte. On donne la victoire aux forces des ténèbres. Nous sommes appelés à réagir toujours en douceur par la prière et l'amour. Jésus nous a montré l'exemple. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez comment Jésus parle par rapport aux humains. Mais quand il parle des démons, il parle différemment. Il dit le prince de ce monde est déjà jugé. C'est pas la même chose. Il les chasse. Mais par rapport aux humains, il est différent. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons nous élever au-dessus de la persécution humaine par l'amour, le pardon, en se rappelant que tous ces humains-là nous ressemblent quand nous étions païens. Dieu a eu pitié de nous. Il a aussi pitié d'eux. Donc nous devons avoir la même disposition de cœur envers eux que le Seigneur a. C'est comme ça que nous gagnerons. J'avais lu un livre où un frère avait résisté à la persécution. Il a résisté, je crois, environ peut-être 20 ans, 15 ans. C'est un livre, je dirais, un peu quand même horrible, parce que ça fait très mal de voir ce frère-là qui avait une fiancée être emprisonné à cause de sa foi. C'était en Chine, autrefois, et avec le temps, finalement, perdre sa fiancée qui va épouser quelqu'un d'autre. Et lui, dans la persécution, il se retrouve avec les jambes déformées à cause des persécutions, en prison. Mais il reste ferme dans sa foi vis-à-vis de Dieu. C'est exceptionnel. Et un moment, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu l'as laissé souffrir ainsi? C'est ça qui va être la troisième cause de la persécution. Alors le Seigneur m'a remis en image le début du livre. Au début du livre, il y a le capitaine chinois qui vient récupérer les clés de leur bâtiment de culte. C'était lui le responsable, le frère. Et il a résisté fièrement, pas physiquement, mais fièrement au capitaine chinois. Et le Seigneur m'a remis ça. Et je me suis souvenu que même moi, quand j'avais lu cette partie-là, il y a quelque chose qui m'avait tiqué. J'avais senti l'orgueil dans sa façon de résister à ce communiste qui venait confisquer la salle. Il n'a pas fait comme notre Seigneur. Et le Seigneur, en me remettant cette image, m'a fait comprendre que même ceux qui se disent chrétiens peuvent avoir un orgueil qui peut être un poids pour vraiment servir Dieu comme il faut, qui peut être un blocage dans leur relation avec Dieu, même s'ils paraissent engagés, déterminés, mais Dieu n'est pas dans l'orgueil. Et donc, c'est comme si l'Esprit me disait, pour son niveau à lui, il fallait peut-être tout ce temps de persécution pour le blanchir, pour le purifier, pour le rendre beaucoup plus brillant spirituellement parlant. Peut-être que nous, on voit les gens comme ça, mais Dieu voit les choses autrement. La persécution, troisième source de persécution, c'est Dieu lui-même qui permet. Il permet cela pour nous blanchir, pour nous rendre plus blancs que la neige, pour nous dégager du poids de la terre. La persécution te rapproche de Dieu. La persécution te fait voir les choses autrement. Ça te fait voir les choses comme Dieu voit. La persécution te détache de la terre. Tu commences à voir les choses de la terre comme étant vraiment secondaires. Et c'est comme ça que tu dois être, puisque Jésus était comme ça. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire que nous ne devons vivre que par la persécution. Je ne dis pas ça. D'ailleurs, même quand on a lu Éphésiens 6, on a dit, c'est pour les jours mauvais, quoi. Pendant les jours mauvais, toutes ces armes-là, tous ces combats-là, il y a des jours mauvais. Même Jésus dit, dans Jean 9, il dit, je dois travailler pendant qu'il fait jour. Donc, il y a des temps où il fait jour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de persécution, où tous les feux sont verts. On travaille, il n'y a pas de blocage, ça avance. Mais il y a des temps, il a dit, puisque la nuit arrive, il y a des temps de nuit. C'est ça, le temps de persécution. Donc, quand on parle de temps de nuit, s'est laissé par Dieu, permis par Dieu. Et quand on vient arrêter Jésus, il dit, c'est votre heure, l'heure des ténèbres. Donc, c'est la nuit qui est arrivée. Donc, d'un côté, dans Jean 9, il dit, il fait jour encore, je dois aller travailler, je dois aller ressusciter Lazare. Mais le même Jésus va dire à Gethsémané, c'est la nuit maintenant. C'est le temps où je suis livré. Donc, Dieu ne va pas intervenir pour m'enlever de ça. C'est l'épreuve qui transforme ma foi en quelque chose de doré, en de l'or. Ça devient de l'or. En or, ma foi est transformée par la persécution. On devient une créature céleste concrètement par la persécution. On est relié. Il y a quelque chose qui nous relie comme une colonne de feu, une nuée qui nous relie au ciel. On devient étrange, comme Jésus transfiguré. Esther Gulshan, après avoir rencontré le Seigneur, la persécution commence. Jésus l'a guéri. Dès le premier jour, on lui dit, tu ne dis pas que Jésus t'a guéri. Nous sommes au Pakistan, c'est la terre des musulmans. Tu dis que c'est Dieu qui t'a guéri, mais pas Jésus. Elle dit, mais moi c'est Jésus qui m'est apparu. Et c'est lui qui m'a guéri. Elle continue à le dire. Elle a fini par quitter la maison. Vous vous imaginez que Esther Gulshan, elle s'est absentée pour aller visiter sa sœur qui était mourante. Arrivée là-bas, elle trouve sa sœur morte. Le lendemain, Dieu lui dit, tu vas prier pour elle, elle va ressusciter. Elle prie pour sa sœur, la sœur ressuscite. Donc la sœur lui dit, j'ai vu Jésus. Du coup, elle est restée là un temps pour édifier sa sœur en Christ. Entre-temps, elle travaillait, elle travaillait dans une école de l'armée du salut. Donc, c'est les chrétiens qui l'ont engagée là-bas, puisque les chrétiens ont vu qu'elle a été chassée par sa famille. Et donc, du coup, elle s'est absentée 7 jours. Vous savez, il n'y avait pas les portables à l'époque. Donc, elle ne pouvait pas expliquer tout ce qui arrivait chez sa sœur et le miracle que Dieu avait produit, la conversion qui s'en était suivie et les filles de sa sœur qui commençaient à être touchées par la suite. Et elle arrive à l'école qui l'hébergeait en même temps. Donc, elle vivait aussi en même temps là-bas puisqu'elle n'avait plus de foyer, chassée par sa famille. Elle arrive là, le directeur, je crois un pasteur même, qui lui dit, on est obligé de te renvoyer. Est-ce que vous venez, vous vous rendez compte? Ce que Jésus nous dit dans Matthieu 10, il faut que vous relisiez Matthieu 10. C'est-à-dire que c'est même les gens qui doivent vous aider qui vont vous mettre dehors. Vous vous rendez compte que vous êtes en Arabie Saoudite où c'était une fille, c'était pas un homme, une fille. Et jeté dehors par sa famille, parce qu'elle a cru comme vous en Jésus. Vous l'hébergez, elle travaille dans l'école, elle s'est absentée une semaine. Vous ne voulez même pas écouter l'explication de tout ce qu'elle a fait, alors que tout ça, ce qu'elle a fait là, c'était une mission divine. Mais on l'a chassée, elle s'est retrouvée dans la rue, une fille au Pakistan. Par qui? Par des chrétiens. Bien-aimés, la vérité est élevée. Elle a un prix plus que de l'or. C'est ça la vérité. Et à cause de ça, il y aura la persécution. Et une cousine lui dit, mais j'ai du boulot pour toi. Va dans tel endroit. Elle arrive dans cet endroit-là, en réalité, c'était une prison. Elle aussi, elle entre tranquillement. Elle dit, mais on m'a envoyé ici par ma cousine, il paraît que vous avez un travail pour moi. Mais là où les prisonnières lui disent, non, madame, vous êtes en cellule avec nous. Comment ça en cellule? Oui, là c'est une cellule de prison. Et on vient lui dire, vous êtes emprisonné à cause de votre foi. Bien-aimé, au début, elle n'a pas compris. Elle dit, mais comment Jésus m'abandonne? Mais elle a commencé à jeûner, à prier. À la fin de son jeûne,
l'Esprit du Seigneur était sur elle. Elle a converti huit voleuses de sa cellule. La cellule commença à devenir glorieuse. Et on a dit à la personne qui l'avait envoyée, il faut venir la récupérer parce qu'elle risque de convertir toute la prison ici. Et elle est sortie de prison et quand sa sœur vient la récupérer, elle refuse. La sœur dit, je viens te récupérer. Puisque elle avait quitté chez sa sœur aussi, parce que quand on l'avait chassée chez les chrétiens, elle était repartie chez sa sœur, mais le beau-frère n'avait plus voulu d'elle. Elle avait aussi été chassée de là. Et la sœur, quand elle vient la récupérer, elle dit, je veux rester en prison, parce qu'en prison, les gens aiment Jésus. Mais dehors, les gens n'aiment pas Jésus. Vous voyez comment la persécution l'avait transformée. Elle était devenue quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui peut entrevoir le Seigneur dans tout. La persécution, elle vient de Dieu. Elle nous blanchit, elle nous transforme. Nous devenons célestes. Et c'est ainsi qu'elle sort. Et elle se retrouve finalement avec sa sœur qui est devenue aussi chrétienne, parce que la famille était mutée. Dans une ville, dans la ville où se trouvait l'un de ses frères, arrivé là-bas, un jour, l'un de ses frères lui sort le revolver. Dit, aujourd'hui, si tu ne renies pas Jésus, je te tue. Elle l'avait entraîné dans une cave. Si tu ne renies pas Jésus, je te tue. Elle dit à son frère, tu peux me tuer physiquement, mais tu ne peux pas tuer mon âme. Mon âme est avec Jésus. Tout ça se trouve dans Matthieu, quoi? Matthieu 10, 16 à 42. Ce passage-là est complet. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ils ne peuvent faire rien pour votre âme. Bien-aimés, nous devons avoir le courage de nous tenir devant ces fusils. Dire, vous ne pouvez pas me tuer. Vous ne tuez que mon corps. Mais mon âme est reliée au ciel. Le frère a tiré. Et le revolver n'a pas pu fonctionner. Et il l'a chassé, il a dit, tu, ça ne sert même à rien de te tuer, quoi, tu n'as pas de valeur. Elle est partie. Bien-aimée, qu'est-ce qu'elle n'a pas vécu? Elle avait eu des enfants adoptifs. Et les musulmans ont tué l'une d'entre elles. Et pendant 9 mois, elle ne pouvait même plus parler à cause de ce choc-là. Mais dans tout sa bien-aimée, elle était toujours beaucoup plus transformée. Bien-aimée, vous ne pouvez pas savoir... vous ne pouvez pas savoir, excusez-moi. Il ne faut pas négliger la puissance de l'orgueil. Il ne faut pas négliger ça. L'apôtre Paul a dit, Dieu lui a mis une écharde. Une souffrance pour qu'il ne tombe pas dans l'orgueil. Dieu permettra la persécution parce que nous sommes rapides à tomber dans l'orgueil. Vous qui suivez les études bibliques qu'on fait dans le livre des rois, on a connu combien de fois le même cycle? Un roi bon, simple, qui se donne à Dieu et du coup, Dieu se manifeste glorieusement, il tombe dans l'orgueil et il chute. Alors, pour nous maintenir près de lui, pour nous faire monter encore plus près de lui, Dieu permet la persécution. Il permet la persécution. Mais, alors, comment résister à Dieu aussi? Parce qu'on a dit comment résister aux autres. Il faut aussi trouver un moyen pour résister à Dieu. Comment résister à Dieu? Ben, c'est en lui faisant confiance qu'il contrôle tout, il gère tout. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Lisons Romains 8, 28 à 39. Comment résister à Dieu? C'est de savoir que Seigneur, tu sais tout. Pierre a résisté à Jésus. Il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Voilà. On ne continue plus le débat. Jacob a résisté à Dieu jusqu'au matin. Il lui a dit, mais tu ne pars pas sans me bénir. Même si tu m'as fait mal, je sais que tu m'aimes. Voilà. C'est ça. Résister à Dieu, c'est savoir profondément qu'il nous aime et que s'il permet les choses, c'est pour nous élever, pour nous purifier et pour nous donner la victoire. C'est comme ça que Gulshan a remporté plusieurs victoires et que son témoignage nous arrive. C'est le chemin de Dieu. Vous savez que vous vous rendez compte, quelque chose se passe au Pakistan dans les années 70. Et ça nous arrive à nous. Et moi, ça m'est arrivé quand j'étais au Maroc, dans un pays musulman, c'est là que j'avais lu le livre. Mais tout ça, c'est le chemin de Dieu. Dieu est glorieux, bien-aimé. Ne nous laissons pas déstabiliser par la persécution. C'est pour notre gloire. Oh Seigneur, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. C'est vraiment vrai. Lisons Romains 8, 28 à 39.
Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?
Amen. Il n'a pas épargné son Fils, bien-aimé. Souvenons-nous de ça. Que si tu souffres, Jésus a souffert plus que toi.
D'une manière indicible. Mais si son papa le regardait comme ça, parce que c'est le chemin de la perfection. Il est écrit dans la Bible, dans le livre d'Hébreux, que Jésus a été... Il est parfait, mais sa perfection a été démontrée par ses souffrances. C'est comme ça. Et c'est le chemin de la gloire, les persécutions permises par le Seigneur. Continuons. Verset 33.
Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen, 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 amen. Il faut être conscient de l'amour de Dieu pour nous. Rien ne peut nous séparer de cela. Dans toutes ces choses, Romains 8, 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas des démons, ce n'est pas une coalition des tribunaux. Tout ça, ça ne peut pas nous séparer de Dieu. Mehdi Dibage, un Iranien qui se convertit, il a tellement soif de Jésus qu'il s'en va évangéliser. Ouh, ah, bien-aimé, en Afghanistan. Toi, tu vas évangéliser en Afghanistan. Il arrive là-bas, il rencontre un vieux chrétien afghan aveugle. Ils ont entendu parler l'un de l'autre. Et pendant qu'ils sont en train de parler du Seigneur, on leur dresse la table, il y a la laver la nourriture. Mais ils étaient tellement contents de parler de leur Jésus qu'ils avaient même plus faim. Ils ont oublié de manger. Et à un moment donné, le chien avait grignoté les choses qui étaient à côté. Je ne sais pas comment. Peut-être l'un d'entre eux avait jeté au chien pour l'éloigner. Le chien avait mangé. Quelques secondes après, on retrouve le chien mort. Ils ont compris que la nourriture était empoisonnée. Bien-aimé, posons-nous la question, peut-être que est-ce qu'on ne travaille pas vraiment pour le Seigneur aussi? C'est une possibilité. Ou bien nous sommes encore dans le jour. Mais il peut y avoir une autre raison de non-persécution, c'est le manque d'entrain pour le Seigneur, le manque de travail pour le Seigneur. Quiconque travaille vraiment pour le Seigneur sera persécuté. Après, je dis, il y a des temps où il n'y a pas de persécution, même quand on travaille pour le Seigneur. Mais on doit se poser la question, je suis dans quel cas? Est-ce que je suis dans le cas du jour ou bien c'est juste parce qu'on est des paresseux? Mais, bien-aimés, le poison n'a pas pu les atteindre. Mais dit Dibache, bien-aimés, vous savez, ce que dit Jésus dans Matthieu 10, je répète encore ce passage-là, est capital. Même les gens de la maison. Vous savez que Mehdi Dibache, sa femme, l'a quitté pour épouser un musulman à cause de la pression familiale. Mais il y a persécution. Nous sommes en train de jouer en Occident. Il y a persécution, persécution. Sa femme l'a quitté. Et quand il revient en Iran, bien aimé, ne pensez pas qu'à Mehdi Dibache, j'étais sans enfant, il avait 3 enfants. Il revient en Iran. On finit par l'emprisonner en tant que pasteur chrétien. Pourquoi? Et on l'amène en prison. C'était quoi la condamnation? Condamnation à mort. Et le frère qui nous écrit ça, il dit, mais c'est les gens de portes ouvertes. Donc lorsque ils apprennent la nouvelle que Mehdi Dibache va être tué dans plus ou moins 3 jours, ils font des démarches dans les chaînes de télé, l'Union européenne, tout ça. Ça fait du bruit. La condamnation est annulée. Et Mehdi Dibache sort libre. Mais bien aimé, 3 ans après, Mehdi est tué. Est-ce un échec? Non, ce n'est pas un échec. Qu'est-ce que notre frère a lu? Ni, car j'ai l'assurance, verset 38, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur. Parce que nous, on aimerait bien, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous aimerions bien que l'histoire finisse comme dans Tintin. Donc à la fin, il a battu la mafia de Chicago. Et puis maintenant, c'est bon, il retourne en Belgique. Non. Là, il meurt 2 ans après. Voilà. Ça ne finit pas comme dans Tintin. Mais ça finit comme dans le ciel. Toujours dans la gloire. Il est dans la gloire. Et il est une force pour nous qui sommes encore vivants. Quand on lit de telles histoires, ça nous aide à affronter l'avenir. Notre vie n'est pas ici. Il est écrit dans Colossiens 3, notre vie est cachée avec Jésus auprès de Dieu. Notre vie n'est pas ici. Persécution ou pas persécution, nous devons dire la vérité, travailler pour le Seigneur, servir le Seigneur. Bien-aimés, nous allons clôturer en lisant Apocalypse 2, 8 à 11. Apocalypse 2, 8 à 11, et puis on lira aussi Matthieu 5, 44 pour finir. Apocalypse 2, 8 à 11. C'est l'église qui a connu la plus de persécutions quand on lit les 7 églises de l'Apocalypse. C'est les seules églises parfaites, l'église de Smyrne et de Philadelphie. Nous lisons.
Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort.
Amen, amen. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voilà mon message. Ne craignons pas ce que nous souffrirons plus tard. Ne crains pas ce que tu vas souffrir
Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Donc Dieu permet ça pour que nous soyons purifiés. Éprouvés, c'est ce que ça veut dire à l'origine. Après, la francisation des choses fait qu'on perd le sens de l'origine. Donc, à l'origine, quand on prend un minerai, on l'éprouve dans le feu pour en sortir soit de l'or, soit du cuivre. Le feu permet de séparer les scories, donc les déchets, et laisser que le métal. C'est ça, éprouver. C'est pourquoi quand on dit la parole de Dieu a été éprouvée, donc on l'a testée. Éprouver, c'est tester. Vous mettez dans le feu pour tester la pureté de quelque chose. Et quand vous mettez dans le feu, ce qui est impur sort. Et si c'est quelque chose de pur, tout reste pareil parce que tout est pur. Voilà. Donc, si la persécution pour vous éprouver, pour vous blanchir, vous rendre citoyen céleste, glorieux. Voilà. Et il dit, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Cette mort-là n'est pas une vraie mort, parce que tu as la couronne de la vraie vie. Bien-aimés, préparons-nous à tout cela. Il faut qu'on nous dise la vérité. Il ne faut pas qu'on nous dise seulement certaines choses. Il faut qu'on nous dise tout. Comme il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Et dans Matthieu 5, 44, le Seigneur, donc je vais résumer, nous donne la façon de répondre aux persécutions humaines. C'est écrit, Matthieu 5, 44.
Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent.
Voilà, bien-aimés. Tous ceux qui nous maltraitent, persécutent, font des calomnies sur nous, nous devons les aimer, prier pour eux. Bénir ceux qui nous maudissent. Voilà comment nous triompherons de la persécution humaine. Comment nous triompherons de la persécution diabolique? Nous connaissons Éphésiens 6, 10 à 20, nous dit de prendre autorité avec le bouclier de la foi, l'épée de la parole, les prières. Même avant de prêcher, il faut prier, puisque c'est un combat. Prendre autorité avec le casque du salut. Voilà comment nous affronterons les mauvais esprits. Et comment nous affronterons Dieu lui-même? Par la confiance qui nous aime et qui s'occupe de tout. Tout concourt pour notre bien. C'est notre papa. Il est avec nous partout. Il dit que même un cheveu de notre tête, chaque cheveu de notre tête est sous protection divine. Chaque cheveu. L'amour pour Dieu nous enlèvera toute forme de questionnement défaitiste. On sait qu'il nous aime. Cet amour crée de l'amour pour lui et nous sommes prêts à affronter la mort en chantant comme notre frère Antipas de l'église de Pergame, le témoin fidèle de Jésus. Ah, bien-aimé, je vais chercher ces gens au ciel. Hein. Antipas, Esther Gurchan, les témoins fidèles. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont cités dans la Bible. Il faut que je mémorise leurs noms. Nous allons prier, bien-aimés, que nous soyons attachés au Seigneur jusqu'à la mort, prêts à subir toutes sortes de persécutions, même des gens prétendument chrétiens, des gens de notre camp, en apparence. On doit être prêt à tout cela. Mais savoir comment répondre aux humains, répondre aux mauvais esprits et répondre à Dieu afin de célébrer la victoire. Comme Jésus, vous savez, à la croix, c'était la victoire totale. Quand le sang a coulé, il a dit, tout est accompli. Tétélestai, tout est accompli.
En grec, j'ai cité la chose. Tout est accompli. It's finished. C'est fini. Un frère m'avait dit qu'il avait eu ça en vision et que Jésus était en souffrance tout en étant joyeux en même temps. Et c'est ça, la joie d'avoir tout fini. Et nous aussi, on aura cette joie-là quand on arrive devant le Seigneur. Il nous dit, entre dans la joie de ton maître. Ce jour-là, tout est fini. C'est le passé. Et quand on est à la veille de notre mort, nous, on sera dans la joie. On dit au revoir au monde. On va maintenant dans notre héritage. La couronne de vie nous attend. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, allons plus loin avec le Seigneur. Et en allant plus loin, il y aura des persécutions. La gloire de Dieu qu'il va envoyer dans la fin des temps sur ses enfants apportera aussi la persécution en même temps. C'est ce qui est écrit dans Marc 10, 30. Il y aura la gloire, mais avec des persécutions. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Seigneur, fais de nous des combattants, mais des combattants d'amour. Qui ne répondent pas par l'épée, mais qui répondent par la sagesse, la paix, la joie, l'intercession, la prière, l'attachement à toi, Seigneur. Seigneur, prépare-nous aux persécutions à venir, que nous soyons debout quand ça arrivera, que nous ne maudissions personne, mais que nous bénissions, Seigneur. Et fais-nous maintenant voir autrement les persécutions que nous vivons aujourd'hui, même si ce n'est pas encore la grande persécution, mais que nous puissions négocier tout cela dans l'amour, dans la paix, dans la prière et la victoire. La confiance en toi, Papa. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus. Amen.